Bonjour, bonsoir les amis, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Bienvenue à l'émission en français de RAE, l'Argentine vers le monde. À la technique, Gloria Sarmiento, et qui vous parle, Eric Domergue. Nous allons faire ensemble une émission d'une demi-heure. Merci de nous accompagner. Aujourd'hui, nous démarrons avec une invitée et nous la présentons en musique. Zaida Sayas, bienvenue. Vous êtes interprète de musique classique et contemporaine. Que sommes-nous en train d'écouter ?
Nous sommes en train d'écouter A Letter from Home, from Pat Metheny and Lyle Mace. Lyle Mace, c'est le pianiste qui vient, malheureusement, il vient de mourir et je voulais faire un petit hommage.
Très bien.
Parce que cette composition, on l'a enregistrée avec un copain du lycée franco-argentin où j'ai fait mes études ici en Argentine. Horacio Pozzo, qui joue la guitare. Et on s'est réunis pour jouer ensemble à propos des 25 ans du lycée, en 1994.
Exact.
Alors, après, on a continué à jouer. On a fait cet enregistrement live au Centro Cultural Recoleta. Et je l'ai édité, Aqua Records a édité ce registre décoré à Mozart, s'appelle.
Tu es italo-argentine ou argentino-italienne. Et quel est ton lien avec la France ?
Mon lien avec la France, c'est la langue, parce que ma mère, elle voulait à tout prix que je parle une langue très bien et ma sœur une autre. Alors, elle nous a envoyé à chacune. Moi, au collège français, avant le lycée, c'était le collège français en Argentine. Et ma sœur, une Washington School English. Mon grand-père était traducteur de 5 langues. Et italien qui est venu en Argentine et travaillé pour les Anglais dans les railways. Alors, il a appris l'anglais, l'allemand et le français. Il est devenu traducteur de 5 langues. Et toute ma famille, il y a un intérêt comme ça très marqué avec les langues.
Mais toi, tu parles combien de langues ?
Moi, 5 ou 6. Bien, le français comme deuxième langue, l'anglais immédiatement après. L'allemand, j'ai vécu en Allemagne et j'étudie aussi au lycée l'allemand, le portugais et l'italien. Pas très bien, mais je le parle, je le comprends. Je ne peux pas l'écrire, mais si.
C'est bien qu'on te présente comme interprète de musique classique et contemporaine.
Oui, très bien.
Ça, je l'ai piqué dans ta biographie. Hein.
Oui, c'est ça. Mais j'ai aussi commencé, après avoir joué le Pierrot Lunaire d'Arnold Schoenberg pour l'inauguration de la création du Centre d'expérimentation du Théâtre Colonne en 1990, j'ai commencé à explorer la liberté de l'improvisation qui m'a mené après aussi à jouer de la musique populaire et mes propres compositions. En fait, je suis partie à Paris en 1995 avec une bourse du Mozarteum pour aller à l'atelier qu'ils ont là, à la Cité des Arts, parce que je voulais exclusivement, j'allais enregistrer ce CD qui s'appelle Amores de Argentina, journal de pianiste. Et je voulais faire cette expérience de l'abîme, de jouer ce que j'avais envie, mais sans partition devant.
Tu as commencé à jouer le piano à 6 ans.
Ou 5 peut-être, mais c'est bien que j'avais 5 ans.
Oui.
aussi.
C'était comment à cet âge de découvrir un instrument qui est quand même très complexe?
Oui, c'est vrai. Moi, je me rappelle que c'était un peu un jeu. Ma sœur et moi, on prenait des cours avec le même prof qui venait à la maison. Et après, on allait toutes les deux chez Béla Ouchvali, qui était un Hongarien de l'Hongrie, qui avait été un pianiste international comme ça. Et j'ai aussi là retrouvé des camarades du collège français, Eppelbaum, Claudio Eppelbaum, qui étudiait avec lui. Et nous, je ne me rappelle plus maintenant, mais alors on étudiait, là c'était Pampa et Icuba, une maison ancienne. Et à un moment donné, moi je sentais que je n'avais pas de chemin clair. Comment j'allais faire pour jouer toute la complexité du répertoire classique? Et je jouais beaucoup à l'oreille. Alors, même si j'avais étudié les partitions, après j'oubliais tout et je ne faisais que jouer à l'oreille. C'était un peu traumatique. Mm-hmm. Et je voulais laisser la musique, abandonner tout. Et là, mes parents ont cherché désespérément un chemin. Et là, une amie allemande qui m'a recommandé d'étudier avec une disciple de Fedora Velasturi, qui a été ma grande maître.
On va en parler.
On va en parler, oui.
Et tu joues un autre instrument?
Non.
Et tu es prof senior de piano.
Exact, si.
Bon, tu as parlé de Fedora Velasturi. Raconte-nous un petit peu. Je suis vraiment très curieux de savoir qu'est-ce que c'est que le système conscient pour la technique du mouvement.
Oui, le système conscient, c'est tout ce titre complexe que je ne comprenais pas quand j'étais adolescente, que j'ai commencé à expérimenter. C'est quelque chose de super avant-garde à l'époque et même aujourd'hui, parce que Fedora a découvert les corrélations énergétiques qui existent entre les trois parties des doigts, chaque partie du doigt, les trois articulations qui se correspondent aux trois articulations de la main, le bras. La même chose se passe au niveau dans les extrémités,
les
membres inférieurs et aussi dans le tronc. Et alors, tout ce travail, le travail technique consiste en au fait de mettre en rapport l'énergie que la pensée, c'est comme le, comment on dit, quand tu charges une voiture, tu mets de la gasoline, non?
Le carburant.
L'énergie, c'est le carburant du mouvement. Alors, l'émotion, comment faire pour que l'émotion qui est toujours là, mais si on n'est pas conscient de comment elle agit sur le mouvement, on commence à surmener. Les muscles travaillent en plus. En réalité, il faut découvrir comment ne pas faire tout ce qui se transforme en un obstacle à partir du fait que, pour la pratique de n'importe quel instrument, on a besoin d'un entraînement tous les jours. Et alors, trouver le rapport non mécanique avec cette pratique qui est directement le langage de la musique qu'on peut apprendre comme on apprend une langue, en réalité. Et le corps doit être l'instrument, mais ne pas signifier un obstacle. Et la musculature doit répondre à la pensée. Pour que cela soit possible, il faut le relax du système nerveux et non pas du muscle. On agit, quand on n'a pas cette merveilleuse possibilité que Fedora a trouvée, on agit sur la musculature et non pas sur ce qu'il faut agir, c'est-à-dire il faut laisser les muscles et les os libres pour l'action.
Et cette administration de l'énergie a à voir aussi avec l'alimentation?
Oui, mais une conséquence d'une prise de conscience qu'on a besoin d'y arriver aussi. Mais ce n'est pas quelque chose qui est inclus.
Ce n'est pas incorporé.
Ce n'est pas incorporé a priori. C'est à partir d'une conscience qu'on est l'instrument et que le piano, en réalité, est un instrument facile qui a une
facile.
Je veux dire...
pas c'est pour moi.
Il y a une mécanique qui est la même, un marteau qui fait la percussion sur les cordes, voilà. Et, il faut, en réalité, c'est pas du tout facile, c'est vrai, mais la majeure difficulté...
Le mécanisme, oui, c'est un coup de marteau sur une corde.
Exact, oui. Mais la difficulté, c'est comment agir,
voilà.
Et que les doigts soient la percussion précise sans que... Oui, c'est-à-dire développer la possibilité d'une pensée qui, à travers notre corps, se traduise en son. C'est ce qu'on fait tout le temps avec la langue.
Oui, exactement. Et cette discipline de Fedora Averasturi, elle a des adeptes un peu partout dans le monde?
Oui, parce qu'elle a eu beaucoup de disciples. Et à Paris même, il y avait Geneviève Pérègne, c'était son nom. Brigitte, une Française, une scientifique qui est allée étudier avec Fedora, qui est venue en Argentine. Au Brésil, en Allemagne, oui, il y en a. En Espagne, moi, j'ai fait des cours parce que la majorité des élèves de Fedora qui ont dû partir en 76 à cause du coup d'État sont allés en Espagne. Ils ont créé là une école, Fedora Averasturi. Et elle ne croyait pas à l'institution. Alors seulement à cause de cette situation politique tellement difficile, c'est qu'elle a autorisé une pianiste, Gija Diaz, et son mari, violoniste, qui était disciple, a utilisé son nom pour une école à Barcelone qui s'est propagée beaucoup en Espagne. Oui.
On va continuer à parler de ton parcours, mais on va le faire en musique, immédiatement. Nous sommes avec Zaïda Sayas, en train d'écouter sa propre musique. Raconte-nous, qu'est-ce que nous écoutons actuellement?
Nous écoutons une composition à moi que j'ai composée justement quand j'étais à Paris. J'ai commencé à écrire cette musique qui s'appelle El Retorno.
Et le retour.
Le retour, oui. Oui. Et que... j'avais décidé de retourner en Argentine quand j'ai fini de composer ça, mais ça m'a pris beaucoup plus longtemps parce que je suis restée depuis 1994 jusqu'à 2010. J'étais un peu entre les deux continents, en Allemagne, en France et Argentine, et Allemagne et l'Argentine. Et j'ai pu produire mes compositions et 3 ou 4 CD à cause de cette possibilité de jouer beaucoup plus que ici en Argentine. Et alors, je voulais étudier avec Horacio Salgan. Quand j'ai découvert la musique de Horacio Salgan...
Raconte-nous un peu qui est Horacio Salgan les auditeurs.
Pour les auditeurs, c'est vrai. Pas tout le monde le connaît. Mais il est très, très connu au Japon, en Europe, partout. Mm-hmm. Parce que c'est un peu comme le Jorge Luis Borges de la littérature pianistique du tango. Mm-hmm. C'est vraiment... Pour moi, le meilleur des pianistes dans la conception de l'expression du tango sans la subjectivité culturelle qui, qui traduit le tango un peu une, comment on dit, une complainte. Oui. Comme c'est, il y a la force à Salgan, il y a la force que Piazzolla a repris après. Mm-hmm. Piazzolla a pris beaucoup de sujets de la musique de Salgan et a transformé ça avec une force terrible dans un langage contemporain. Et Salgan, étant tout à fait classique, a composé une centaine de tangos merveilleux. Et bon, moi, j'étais fascinée. L'écriture de Salgan est la plus respectueuse du langage de la musique classique. Ah bon? Alors, c'est ça qui m'a permis de connaître sa musique d'un côté qui n'était pas seulement l'oreille d'avoir écouté le tango. Non?
Et parlant de musique classique, comment passe-t-on de Beethoven, Ravel, Brahms, si j'en passe, à Luis Borda, Marcelo Moghileschi, Alejandro Santos et d'autres?
Oui. Bon, un peu, j'ai raconté, le parcours pour moi a été d'aller à Paris pour composer ce que je voulais, la liberté, et à partir de là...
Mais tu as toujours continué avec le classique aussi, non? Tu n'as jamais abandonné...
Non, j'ai jamais abandonné le chemin de l'interprétation, mais j'ai changé tout à fait le répertoire en incluant des compositions populaires, des tangos, des musiciens, la rencontre avec des musiciens. Luis Borda a été... je dirais le premier avec lequel on a fait un projet ensemble. On a enregistré en Allemagne à partir d'une tournée qui s'est organisée un peu improvisée parce que moi j'allais jouer à Paris et après on a joué ensemble à la Cité des Arts aussi. Et lui, il avait des dates en Allemagne avec un quartet qui n'a pas pu voyager. Alors on a commencé comme ça et c'est devenu très intéressant. Et on nous a proposé de faire une CD à Cologne. Mm-hmm. Et c'était la première fois qu'on enregistrait en Europe, lui et moi. Et c'était comme ça un élan important d'une musique qui était des compositions à lui et à moi et des tangos classiques avec dans des arrangements très personnels. Non? Oui.
Tu as déjà édité 7 CD, il y en a un nouveau qui va peut-être sortir cette année.
Oui, j'espère bien que d'ici 2 ou 3 mois maximum.
À bientôt donc.
À bientôt, parce que j'espère, je vais en tourner maintenant à la fin du mois de juin. Et le CD va être un double CD. C'est l'intention, c'est justement faire connaître ce qui a été... un répertoire classique que j'ai beaucoup fréquenté. Et ce sont 2 concerts live que j'ai fait.
Uh-huh. Où?
Un ici à Buenos Aires, les deux. 1988, c'était à Guaribay, à Mendoza, Icon, un endroit superbe qu'un Italien a créé pour faire de la musique avec une qualité énorme. Et c'était un concert organisé par l'ambassade de l'Allemagne orientale.
Uh-huh.
Et pour moi, c'était très intéressant parce que j'ai fait ce concert déjà avec une liberté d'organiser le répertoire hyper classique, mais dans un sens très personnel, qui après m'a mené à composer, je dirais, mon premier registre. Ça s'appelle Journal de pianiste, où j'ai aussi joué et enregistré ce que j'aimais le plus. Et la structure musicale a toujours été pour moi dans 2 ou 3 de mes CD. Eric Satie qui m'a l'Egnosienne en particulier de Satie, je connaissais 3 les plus connus d'Egnosienne d'Eric Satie, mais après quand j'étais à Paris j'ai découvert qu'il y en avait 3 d'autres qui n'étaient pas connus, mais on n'avait pas accès à Buenos Aires aux partitions, à la musique écrite. C'était très difficile d'obtenir des partitura de la musique. Et quand j'étais à la librairie musicale à Paris, j'ai découvert, mais comment Eric Satie, il y avait encore 3 anciens. Alors j'ai fait un deuxième CD après qui s'appelle Round Tango, où il y a les autres 3 anciens d'Eric Satie, qui a été pour moi un maître absolu de la liberté dans la musique. Non?
Parce que... Et c'est difficile dans l'Argentine actuelle, crise économique, etc., non, qui vient de loin évidemment, de publier un disque actuellement.
Et oui, c'est difficile parce que je dirais la difficulté est dans le fait que la diffusion est toujours très très réduite. On a très peu d'espace dans les médias pour la musique instrumentale d'abord, parce qu'il y a toujours la chanson qui prend le... Mais en plus, il y a tellement de grands musiciens et elle est tellement basse pour moi la qualité de ce qu'on écoute partout, non, dans les radios. Et c'est ça qui fait un peu si il faut traverser toujours des obstacles, mais bon, ça vaut la peine parce que moi je fais confiance au temps qui met les choses comme ça en rapport, non, si.
En très peu de mots, si c'est possible, comment tu présenterais cette République argentine aux auditeurs qui sont loin, qui sont dans l'île de la Réunion, en Algérie, au Canada, en France, etc.
Comment je la présenterais, oui. Comme une réunion de courants immigratoires un peu partout, mais bien sûr de l'Europe, très, très prépondérant à Buenos Aires, qui fait que la grande ville fonctionne un peu comme un pays à part, et toutes les régions plus du nord et nord-ouest ou nord-est sont un peu méconnues du point de vue de leur culture originaire, et qu'il n'y a pas de véritable conscience de moi, quand j'ai commencé à voyager en Argentine, beaucoup plus tard de tous les temps que j'ai passé en Europe, Allemagne, France, comme ça, je me sentais à l'étranger. Je disais non, parce que quand je suis chez moi, mon pays était Buenos Aires, mais c'était pas l'Argentine. Le feeling d'une différence, trop un abîme entre Buenos Aires et le reste
du pays. Et en plus, du point de vue musical, c'est un vrai kaléidoscope, non? Il y a des musiques très très variées au sud, au nord, à l'est, et surtout bon, et à l'ouest aussi, la cordillère.
Oui, et à l'est, le Guarani, oui. L'influence du Guarani du Paraguay et des Guarani, la musique, le chamamé. Bon, j'ai rencontré des musiciens merveilleux de Corrientes, Rudy et Nini Flores, un duo que Rudy on a enregistré ce disque à Paris chez un Bolivien, Aspic. Il y avait un label Aspic. Carlos Arguedas, qui fonctionnait un peu comme Lito Nevia ici en Argentine, qui produisait les musiciens du moment, de toutes les cultures.
Oui.
Génial. Et là, on a enregistré avec Rudy Flores dans mon disque. Et un peu, bon, je ne sais pas, Paris aussi fonctionne un peu comme un monde à part le reste, non?
Il nous reste très peu de temps parce que, bon, ça passe vite. Oui. Mais parler de l'Argentine, c'est malheureusement aussi parler des droits de l'homme. Et toi, tu participes régulièrement avec les ONG, ou avec les maires, ou avec les grands-mères de la place de Mai.
Oui, j'ai joué là quand c'était les 40 ans. C'était la dernière marche qu'elles ont dû reprendre après, mais... Oui. En 2006, on a fait un concert avec Fernando Samalea. Et bon, tout ce que je peux, j'ai fait la musique pour un film sur la vie de Estela Carlotto. Ah. Il y a la Silvia. C'était une production de Magdalena Ruiz Iñazú, Silvia Di Florio, un trio.
Estela Carlotto, c'est la présidente des grands-mères de la place de Mai.
Ah oui, bien sûr. Moi, je parle comme si tout le monde devait savoir, mais c'est... Oui, et alors la musique du film... Il s'appelle Estela, et ce sont mes compositions, oui. Et enfin, la résistance est tous les jours, toutes les minutes de la vie, parce qu'on a vécu des choses terribles.
Exact.
Et on n'oublie pas.
Zaïda, donc, un nouveau disque, à la mi-année, un nouveau voyage en Italie et en Allemagne.
Oui, non? Peut-être la France aussi.
Peut-être
Paris.
La France aussi.
Si. Si, parce que justement, la possibilité de la Cité des Arts, c'est que je peux retourner tant que je veux. Alors, j'ai pensé que cette fois, ça fait longtemps que je ne passe pas, peut-être une semaine, je passerai à Paris. Oui.
Bon, on aura l'occasion certainement de se revoir, de se reparler, ou à ton retour, tu nous raconteras un petit peu ce nouveau voyage.
Oui. Je te remercie beaucoup, Eric, c'était... je suis très contente d'être venue.
Zaïda Sayas, merci à toi, et puis on se quitte en musique, évidemment. Thank you. Qu'est-ce que nous sommes en train d'écouter pour nous dire à bientôt, au revoir?
On écoutait Por el Sur, c'est una huella, c'est un rythme latino-américain de Remo Pignoni, un compositeur de Santa Fe, argentin, que j'ai connu à Paris et qui a été pour moi une grande surprise. J'aime beaucoup.
Et le 12 mars, pour la semaine de la femme ou le mois de la femme, tu seras en Terre de Feu?
Oui, pour la première fois, Feuerland, auf Deutsch. Et si je serai en Terre du Feu, en faisant un concert pour la Secrétaire de Culture, il y a Luis Val qui m'a invité avec Fernando Galimani, double basse, qui a joué dans ma composition là qu'on a écoutée. Aussi Pablo Mainetti, Kike Sinesi et Horacio López. Je voulais les mentionner parce que ça a été un grand support.
Zaïda Sayas, à nouveau, merci beaucoup.
Hein. Merci à toi.
Et nous sommes arrivés à la fin de notre programme de RAI, l'Argentine vers le monde en langue française. Je tiens à remercier à nouveau à la technique Gloria Sarmiento et qui vous parle, Eric Domergue. Je vous dis merci beaucoup. À demain.